Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous réécouterez ça chez vous au calme.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à se délecter de la nouvelle version de Terminator 2 restaurée, convertie en 3D. Eh oui. Y a pas que nous que ça met en joie, visiblement.
Ce mix sera tout ça.
Restauré donc sous la supervision de James Cameron. Et vous l'avez entendu, on en cause avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Thomas.
C'est nos ciné Extra Ball spécial T2 3D. C'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Rafik, peut-être que pour commencer, on peut remettre un peu le film dans le contexte, la sortie, la création, la gestation très express, on va dire, de Terminator 2.
Très express, voilà. On peut dire ça comme ça. C'est un film qui va devenir un prototype, en fait. On l'a peut-être oublié, comme c'est souvent le cas avec les succès gigantesques, que c'est un coup de poker au moment où il est lancé, puisque c'est le premier Terminator avait été un succès surprise, qui était produit par une boîte qui s'appelait Hemdel, distribuée par Orion. Et Hemdel, c'était des gars qui étaient spécialisés plutôt dans des films un peu cheap d'exploitation, et ils ont jamais compris ce qui s'était passé. Voilà, déjà ils y croyaient pas des masses quand Terminator, donc le premier, est sorti en salle et que très vite le succès était évident. Ils ont fait aucun effort pour surfer dessus. C'est vraiment les exploitants qui réclamaient le film. Ouais. Hemdel est complètement à la ramasse. Et en fait, ça s'était tellement mal passé avec eux que Cameron n'était vraiment pas pressé de rebosser. Il avait bien sûr des tas d'idées qu'il avait jetées sur papier pour des suites éventuelles, mais il a préféré faire sa carrière. Donc le délai entre les deux films, il est aussi dû à ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que Arnold Schwarzenegger a, lui, passé son temps à demander quand est-ce qu'on en fait un, et il avait bossé avec le producteur Mario Casar sur le film Total Recall. Mario Casar, c'est un type dont la fortune, sa boîte s'appelait Carolco, et sa grosse fortune s'était faite avec Rambo 2, qui était scénarisé par James Cameron, voilà.
Je te laisse le dire, si les gens dans le public le disent aussi. Mais...
Et donc, la sortie de Total Recall, vu l'énorme succès que c'était, où vraiment, là, tout définitivement, le prestige de superstar de Schwarzy, capable de lancer un film sur un premier week-end, était complètement assuré. Cassar s'est dit, il y a vraiment un truc à jouer. Par contre, ça va me coûter très, très, très cher. Forcément. Et donc, il a fait un coup de poker. Il a emprunté tout l'argent qu'il pouvait et il a, comment dire, réglé tous les droits au niveau de Hemdel. Il aura pris tout le bébé. Il a réglé les droits au niveau de Galen Erd, qui était l'ex-femme de James Cameron et productrice du premier Terminator. Et donc, il a proposé ces salaires mirobolants à la fois Arnold, je crois que donc c'était 15 millions pour Arnold et 6 millions pour James Cameron. En gros, il avait dépensé 30 millions de dollars, il avait même pas de scénario. Oui. Mais déjà, c'était posé sur la table. Et avant même dès que la news est arrivée dans le tout Hollywood, les gens se sont dit, il est fou. À 30 millions, il faut que pour pouvoir faire un film, il va avoir besoin d'au moins 70 millions. Et 70 millions, c'est ce que le premier film a fait au box-office. Ouais. Et à l'époque, les suites faisaient moitié moins que les films originaux.
C'était un temps différent. Voilà.
Donc c'était effectivement, de la part de Cassar, un gigantesque coup de poker, mais qui avait un prix. C'est qu'il ne pouvait pas attendre indéfiniment. Cet argent, il fallait qu'il le rembourse très, très vite. Et donc, là, on est fin 89, à toute fin 89, au moment où Cameron dit « Ok, banco, on y va ». Et Cassar, donc, de lui dire « Ok, donc la sortie du film sera le 4 juillet 1991 ». Donc, en gros, on est déjà en retard. C'est un an et demi avant la sortie. Et donc, Cameron et son scénariste William Wisher vont bosser comme des malades sur le scénario à deux, pour que le script soit validé avant le Festival de Cannes 90. Parce que le Festival de Cannes 90 pour Kassar, Kassar, c'est vraiment des producteurs à l'ancienne, un peu comme les Golan Globus de la Canon et tout. C'est des mecs qui ont fait une grosse partie de leur carrière justement sur les coups de poker, bien sûr, mais les annonces fracassantes au Festival de Cannes. Pourquoi Cannes ? Parce qu'à Cannes, vous avez à la fois toute la presse internationale du cinéma qui est là et tous les exploitants, les distributeurs, etc. Ouais. Voilà. Et donc, peux à la fois faire parler de ton projet et faire les préachats.
Commencer à le vendre.
Voilà. Donc, il me faut le scénario avant Cannes, qu'on arrive là-bas, qu'on annonce le film et que tous les acheteurs mondiaux me payent, quoi, et que j'ai cet argent pour rembourser. Voilà, on va pas demander à qui l'emprunter, mais peut-être pas à des banques. Voilà.
Des gens qui ont des méthodes de recouvrement assez gênantes.
Il est très important que ces gens retrouvent leur argent très vite. Et donc voilà, Cameron et Wisher vont vraiment, vraiment bosser comme des fous. Et l'anecdote veut que Cameron ait imprimé les dernières pages, les 25 dernières pages du script, alors que la limousine l'attendait en bas de chez lui pour l'emmener à l'aéroport. Et il arrive dans l'avion et Arnold a eu le voyage en avion pour lire le scénario. C'est-à-dire que vraiment, c'était de l'approbation de toute dernière minute. Et donc, déjà cet état de panique-là, au mois de mai 90, il annonce un petit peu comment le film va se faire. Voilà. Très vite, le budget de 70 millions va être revu à la hausse parce que avec un délai de 13 mois, donc Cannes 90, juillet, voilà, on a 13 mois pour tout faire. Comment dire, vous connaissez, j'imagine, ce schéma qui vous dit, en gros, qualité, rapidité, pas efficacité, le troisième, c'est quoi ? C'est qu'en gros, vous pouvez avoir de la qualité et de la rapidité contre beaucoup d'argent, et cheap, voilà. Cheap, qualitatif et rapide. Vous ne pouvez pas avoir les trois en même temps. Donc, si vous voulez qualité et rapidité, il va falloir que ça va coûter très cher. Pourquoi ça ? Parce que ça veut dire faire bosser plusieurs équipes simultanément, etc. Donc, très vite, le budget, avant même le tournage, le budget est revu à la hausse. Et donc, on approche à l'époque des 90 millions. Quoi. Et dans le tout Hollywood, c'est juste « what the fuck ». Aucun film n'est monté aussi haut. Pour encore une fois, des recettes qui sont estimées à moins de 70. Oui. Donc ça va quand même être un gros stress sur le tournage et la post-prod. Et pour le tournage, du coup, Cameron va devoir mettre à mal certaines de ses méthodes. Comme vous le savez, c'est un perfectionniste. Et c'est quelqu'un qui aime bien donc, les mises en place précises, avoir un angle de caméra bien choisi et tout faire pour avoir l'image qu'il avait en tête. Là, c'est pas possible. Là, il va falloir tourner à toute berzingue. L'exemple que Fakhri Kian, un collègue, donne dans son livre consacré à James Cameron, c'est la scène où Sarah Connor est en train de recharger dans le désert son arme pendant que Edward Furlong et Schwarzy sont en train de discuter, de se découvrir l'un l'autre. Elles sont tournées simultanément, en même moment. Il y a quatre caméras sur Linda Hamilton et quatre caméras sur Furlong et Schwarzy. Et Cameron, il a de ses moniteurs et il supervise les deux en même temps. Donc, voilà, rien que pour ça, rien que pour...
C'est aux antipodes de sa méthode de travail habituelle.
Complètement. Ouais. Et c'est ce qui donne au film aussi son cachet visuel un peu particulier, qui n'est pas tout à fait celui d'Abyss ou des films suivants.
Qui n'est pas dans les canons de Cameron habituels.
Voilà, où il y a beaucoup, beaucoup plus de longues focales qu'à l'accoutumée, beaucoup plus de panneaux rapides, etc. C'est parce qu'en fait, il y avait un maximum d'angles qui avaient été sécurisés. Considérant aussi, bien sûr, que c'est un film qui est bourré de cascades, etc., où généralement, les cascades, on les tourne à plusieurs caméras. Mais là, même les séquences de dialogue sont filmées comme ça, à multiples cams. Et beaucoup de travail de seconde équipe, en fait, le responsable des cascades, Vic Armstrong, va se charger de toutes les scènes dans le futur. D'ailleurs, il va se faire engueuler parce qu'il était censé montrer des entités se fracasser. Il avait tout filmé sous le même angle. Elles allaient tous dans la même direction. Donc, il a fallu inverser le film pour expliquer aux gens qui sont en train de se rentrer dedans. Ce genre de choses. Stan Winston aussi s'est beaucoup investi dans le projet, puisque c'est lui qui avait tourné le teaser. Au moment où Cameron était encore en train d'écrire son scénario et dont on ne savait pas de quoi parler le film à ce moment-là, Winston avait tourné un teaser que vous avez sans doute vu, qui montre la fabrication d'un T-800 oui. Dans une usine oui. En fait. Ça c'est Winston qui l'avait tourné en mars avril non en avril 90 donc avant que Cameron termine son script. Voilà. Donc voilà. Bon, après on pourra revenir sur le tournage.
Tu peux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce tournage, Rafi? Qu'est-ce que c'est à l'image un peu de cette
prémisse de production? Ce qui s'est passé pendant ce tournage, c'est que la pression aidant et Cameron n'étant pas forcément d'un naturel timide sur les plateaux, il a un peu explosé les compteurs en termes de... comment dire, de comportement un peu militaire. sa réputation de tyran, elle vient vraiment de Terminator 2. Ouais. Y a des gens qui ont fait imprimer soit des t-shirts, soit des petits carnets dans lesquels toutes les répliques étaient, étaient notées, des trucs du genre. Non, je te comprends, j'ai l'habitude de travailler avec des enfants, enfin des choses comme ça.
Ah oui,
c'est une série de vannes. Terminator 2, technicien 0, enfin genre... Il était tout le temps
sympa.
Hors de lui, grosse quoi qu'il détente. Arrive. Voilà, ouais. ne me donnez pas ce que je vous demande, donnez-moi ce que je veux. Enfin, mec, insupportable. Quoi. Et pas mal de gens se disaient qu'ils ne bosseraient plus jamais avec ouais. lui. Quoi, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Mais ça a été effectivement très très compliqué pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire, Linda Hamilton? Parce que je crois que c'est aujourd'hui une des choses qui surprend le plus les gens, ça a été la transformation absolument dingue du personnage de Sarah Connor. Ouais. Alors il faut savoir qu'elle est un peu à l'origine quand même de ce choix radical, puisque à l'époque elle était engagée sur un autre film de SF, donc c'est en concurrence avec le projet Terminator 2 qu'on lui proposait. Elle hésitait et elle a fini par dire, elle a demandé, est-ce que je pourrais jouer une folle? Elle avait ça en tête. Et okay. Cameron de dire banco.
Oh,
il n'avait pas encore commencé l'écriture au moment où il l'a cassé. Ben voilà. ce qui lui permettait de récupérer des séquences qu'il avait déjà écrites pour Rambo 2, oui. Puisque le script original de Rambo 2 par James Cameron commençait dans un asile psychiatrique. En fait, Rambo n'était pas en prison, il était interné. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, elle a fini par dire OK à Terminator 2 parce que elle pourrait se lâcher dans son désir de jouer une dingo qu'elle joue à la perfection.
Ah oui.
Enfin, genre, elle fait vraiment peur. Là, le film aujourd'hui est devenu un classique, mais il faut se mettre dans les bases du spectateur qui va découvrir le film à l'époque, qui a vu le premier, qui a vu cette voilà, petite minette assez mignonne,
oui, oui, oui.
Très, très années 80, et qui d'emblée, le premier plan, voit une espèce de machine à tuer. C'était un vrai choc, quoi. Est-ce qu'elle a fait le bon choix, Linda Hamilton, de prendre Terminator 2? A priori, oui, puisque donc ce film
quoi,
de SF,
film, c'était... Que
alors, c'était une autre suite, c'était le Highlander 2.
Ah oui.
Voilà.
Ah bah, c'est bien, ça.
Et finalement, voilà, au moment de la sortie, elle s'est dit qu'elle
elle
avait peut-être,
tout,
voilà, peut-être fait le bon choix, tout à fait. Voilà, qu'est-ce qu'on
prévoit pas de projet d'Highlander 2 sous peu, enfin, c'est pas prévu encore, on en discutera.
On fera un beat, ouais, une soirée beat Highlander 2.
Soirée
beat
Highlander 2, ce sera bien.
Okay. voilà, et puis des anecdotes de tournage,
oui,
on pourrait en avoir.
Est-ce qu'on peut parler peut-être après de l'impact et de la sortie, de la réception du
tout
film,
à fait.
De comment il a été vécu
ouais.
à l'époque.
Alors, il y a eu de la part de la presse énormément de critiques à tout point de vue, déjà sur cet effet d'annonce, parce que vraiment. Bon, je suis plutôt jeune, donc c'était mon premier festival de Cannes à l'époque. Effectivement, c'est le lancement, enfin l'annonce de T2, c'était du délire. Il y avait des affiches dans toute la ville, tu pouvais pas y échapper, et ça se faisait pas tellement à l'époque. Il y avait les Golan Globus qui faisaient ça pour la Canon, mais la Canon c'était du cinéma d'exploitation pour Vidéo Club. On comprenait le côté un peu charlatan, un peu bon. Mais là, voilà, sur une prod aussi gigantesque avec une méga star, utiliser des trucs de bonimenteur, ça passait mal. Ensuite, quand le budget a dépassé les 100 millions de dollars, ça a fait la une de tous les magazines spécialisés. C'était pareil, la réputation de James Cameron comme étant quelqu'un d'excessivement dépensier, oui. elle s'est faite là par des gens qui se posent pas la question de savoir à quoi ça va ressembler.
Oui, voilà.
Et en n'oubliant pas que le film coûtait déjà 30 millions avant même le premier tour de manivelle, ne serait-ce que pour les histoires de contrat et de droit et tout ça. Quoi. Donc finalement, 100 millions de dollars pour nous donner le film qu'on va voir ce soir, franchement,
ça va.
Quoi. Brett Ratner a dépensé 200 millions pour Rush Hour 2, donc je demanderais de comparer.
Et Justice League a coûté 300 millions de dollars.
Oui, alors vraiment officiellement. Alors.
Officiellement.
Et donc ça n'a pas plu. Et cette idée aussi d'annoncer un film qui n'était pas écrit, c'était pas dans les calendes. Et du coup, c'est devenu une méthode régulière dans le Hollywood. On peut considérer que c'est un des torts que le film a créé. C'est que tout d'un coup, des gens se sont dit, il est possible d'avoir des gros succès dont la date de sortie est déterminée alors même que le scénario n'existe pas. Et c'est devenu quelque chose qui s'est répété par la suite. Les exemples les plus célèbres, c'est des trucs genre Pirates des Caraïbes, plus près de nous, quoi, dont pareil, le 2 avait une date de sortie alors que personne ne savait juste de quoi ça pourrait parler. Et que pas le tournage, mais la construction des décors avait commencé alors que les scénaristes n'avaient pas commencé leur scénario. C'est-à-dire que le mec, on lui présente, on lui dit qu'ils sont en train de construire un bateau, il fait quel bateau? Il n'y a pas de bateau dans mon truc. Pardon. Ça, c'est vraiment T2 qui a lancé ce truc-là. Et sa sortie est une... Voilà, cette sortie typique de ce qu'on appelle aujourd'hui un blockbuster. Quand on pense blockbuster, on pense à Terminator 2. Voilà. Et avec les effigies géantes de Schwarzenegger, l'affiche, c'était même pas une affiche, c'était juste une photo de lui. Là aussi, le film n'a pas forcément fait du bien au niveau marketing, puisque ça annonce les années 90, on va avoir des portraits de la star, absolument pas mis en scène, si vous voulez. C'est fini l'époque des belles affiches, des mises en place, voilà. Là, il y avait juste Schwarzy avec son blouson de cuir sur sa moto, c'est-à-dire l'image emblématique du premier, et avec juste un numéro 2 écrit dessus. Quoi. Donc tout ce qu'un film comme Last Action Hero met un peu en ironie, c'est un voilà. T2 a été l'initiateur de cet Hollywood-là, en fait, de cet Hollywood des années 90.
Et côté presse, comment le film a été vécu par la critique au moment de sa sortie?
Mi-figue, mi-raisin, évidemment. En tant que film d'action, il n'a pas été accueilli comme extrêmement prestigieux. Mais il était tellement spectaculaire que c'était difficile de ne pas reconnaître qu'au moins sur ce contrat-là avec le public était rempli.
Ouais.
La bande-annonce aussi, par rapport aux mauvaises tendances que le film a créées, c'était, moi, dans mon souvenir, c'est la première fois qu'on voyait une bande-annonce qui nous racontait tout le film. et c'était très surprenant, parce que les gens dans la salle se disaient, mais est-ce que...
Pourquoi je vais aller le voir?
J'ai l'impression d'avoir tout vu, quoi. Par contre, en réalité...
Il y a beaucoup d'autres choses à voir.
Voir le spectacle dans sa continuité, c'est autre chose. Il y avait aussi le T-1000, hein. Il ne faut pas oublier que c'était la première créature synthétique. Alors, il y avait ça déjà dans Abyss, qui avait été un bide, donc beaucoup de gens ne l'avaient pas vu. Mais vraiment, l'image de synthèse a tout d'un coup fait son apparition comme étant comme ouvrant absolument tous les possibles. C'était une idée que Cameron avait déjà pour le premier. Hein. Parce que dans le premier, il voulait deux Terminators, un premier qui se faisait tuer à la moitié du film, et Skynet renvoyait un deuxième plus perfectionné qui était le T-1000. Mais évidemment, en 82-83, essayer de faire un truc comme ça, c'était un peu plus compliqué. Et ça restait compliqué en 91, puisque donc ILM... Que James Cameron avait surnommé I Love Money, le T-1000 a coûté 6 millions quand même.
Ah oui.
Ouais. Pour je sais plus, 40 secondes, je crois, ou 46 secondes de transformation dans le film. Donc voilà, c'est un film, un blockbuster emblématique, extraordinaire, mais qui a finalement initié beaucoup de mauvaises choses à Hollywood, parce que tout le monde n'est pas
James Cameron. Non, c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette nouvelle version qui est validée donc par Cameron, un petit peu des motivations qu'il y a derrière, parce que c'est... finalement pas si courant que ça d'avoir un réalisateur qui valide à ce point-là.
Au niveau de l'image du film, il y a souvent eu des malentendus. Par exemple, c'est un film qui a été tourné en Super 35. Alors j'essaie d'expliquer ça rapidement. Avant, dans les années 80, les films qui étaient tournés en cinémascope étaient charcutés pour passer à la télévision. On coupait les deux tiers de l'image pour obtenir un carré au milieu. Bon, c'était absolument horrible pour les cinéastes, en tout cas ceux qui tiennent justement à leur cadre. Et Cameron ne voulait pas de ça. Donc la solution, c'était de tourner en Super 35, qui est en fait un format presque carré.
Presque carré.
Voilà. Mais assez, un peu plus large que le 35 mm habituel. Et donc, on passe le film en salle avec des caches. Donc vous avez le film en scope, en salle, le cadrage auquel le réalisateur a pensé, puisque sur les caméras, ils ont des viseurs qui leur permettent de cadrer comme ça. Et quand ça passe à la télé, on retire les caches. Donc, en fait, le public de la télévision avait d'une certaine façon plus d'images qu'en salle. Du coup, le cadre était moche, mais au moins, on ne perdait pas des informations.
Oui.
Et quand il s'est agi de sortir le film en VHS et en Laserdisc, le Laserdisc, c'était un support pour cinéphiles, et les cinéphiles voulaient les films au format. Et donc, il y avait une version cinémascope de Terminator 2, mais aussi une version Super 35 en plein écran. Et la version plein écran était validée par Cameron et pas l'autre.
Pas la scope.
Et à l'époque, il y avait eu un débat inter-cinéphile, genre, enfin, il est con, Cameron, ou quoi ? On se bat pour essayer d'avoir les formats respectés. Et lui, il nous dit, non, achetez ma version plein cadre. Et ça se défendait pour lui parce que, pardon, sur du cinémascope, vous avez le visage de Linda Hamilton qui est coté comme ça. Comment dire, et vous allez agrandir sur votre télé et vous allez avoir un truc mal défini en fait. Oui. Vous perdez de la définition dans l'image. Alors que sur le Laserdisc, vous avez le même plan, enfin le même plan, vous l'avez aussi, mais vous pouvez lire toutes les expressions sur son visage. Enfin, l'image est plus fine. Donc, il se battait un peu au niveau de problème de définition. Et comme c'était tourné en Super 35 et que le film se passe à Los Angeles avec un ciel très particulier et tout ça, et que donc en salle, il était passé avec des caches, et que, donc c'est comme si on grossissait l'image de certaine façon, l'image avait un côté un peu granuleux.
Oui.
Et donc l'enjeu de cette restauration 3D, ça a été aussi d'atténuer ce grain excessif, sans non plus lisser, comme ça a été le cas sur pas mal de films qui ont été un peu trop lavés, on va dire. Je pense à Predator notamment, qui est regardable tellement maintenant ils sortent tous d'un magazine de mode. Mais là, le film que vous allez voir, c'est une image dont le public des années 2010 est un peu plus coutumier, en fait. Donc, je pense que le film vous apparaîtra comme assez contemporain en termes de teinte d'image. Voilà.
On va juger ça sur pièce. Merci beaucoup, Rafik. Merci beaucoup. Merci, David, à la technique. Merci au Club de l'Étoile pour l'accueil. Donne juste l'adresse du site binge.audio pour retrouver toutes nos émissions, puis on vous dit à très vite. Et bon film.